La revue de presse avec David Abiker.
David Abiker, la reine fait de la résistance à la une des journaux ce matin.
Et vous pensiez qu'une fois la reine inhumée, hier, dans la plus stricte intimité, ce serait terminé, on la laisserait tranquille, mais non ! Une dernière une pour la route. Vos journaux ont du mal à la laisser en paix. Le dernier adieu, titre le télégramme. Le dernier voyage, choisit la Provence. Historique, s'exclame Varmatin. L'adieu à la reine reprend le Progrès. Un titre usé jusqu'à la corde depuis 10 jours, l'adieu à la reine. Splendeur et recueillement, le Figaro résume ainsi la fascination du monde pour ces jours de deuil royal. C'est trop, me direz-vous, mais non. Du théâtre, s'interroge Étienne de Montetti en une du Figaro. Peut-être, mais toute autorité a besoin de symboles pour exister, dit-il. Sa force provient aussi de là, la force du régime monarchique anglais. Et Nicolas Bétou, dans l'Opinion, insiste sur l'importance des symboles unitaires dans la vie d'une nation. Bétou qui compare la monarchie britannique à notre monarchie républicaine et qui se souvient. Lors de la première élection d'Emmanuel Macron, le reste du monde nous regardait différemment, comme il a regardé ces jours-ci l'Angleterre. Le capital s'est évaporé, la figure du roi s'est évanouie et la France ne trouve plus de symbole autour duquel se rassembler. Mais non, Nicolas Bétou, il y a des raisons d'espérer. Les Français vont prochainement se rassembler autour du radiateur à 19 degrés. C'est pas royal, mais c'est déjà ça.
Vous faites allusion au sondage que publient les Échos sur les Français et les économies d'énergie.
Sondage Opinion Way Square. Les Français approuvent la limitation du chauffage à 19 degrés face à la crise énergétique. Alors ensuite, on peut s'interroger sur ce qu'il y a derrière le mot approuvé. On pourrait aussi écrire 80% des Français admettent, tolèrent, subissent en silence. Bref, néanmoins, 80% de nos compatriotes sont d'accord pour limiter le chauffage dans les bâtiments publics et dans les entreprises privées. Ils ne sont plus que 71% à accepter de le baisser chez eux. C'est pareil pour le rationnement. Les Français sont d'accord à 55% pour que l'on rationne les entreprises et les administrations en gaz et en électricité. Ils sont 40% quand il s'agit de se rationner, eux. Logique. Le chiffre le plus intéressant de cette enquête, c'est la réaction des femmes les plus jeunes et les plus modestes. Ce sont elles qui sont les plus inquiètes de ces mesures, ce qui confirme qu'en période de crise, ce sont souvent les plus fragiles qui trinquent et qui s'inquiètent.
L'affaire Quatennens fragilise Monsieur Mélenchon.
Il s'en est fallu d'un tweet de soutien dimanche vers midi à son lieutenant Adrien Quatennens qui venait d'avouer avoir giflé...
Son fils, dit-il souvent.
Oui, son fils aussi, avoir giflé son épouse à l'heure d'une dispute remontant à 12 mois pour que l'autorité du chef soit ébranlée et sérieusement dans les rangs de son parti. Vous vous rendez compte? C'est un tweet qui fait vaciller le leader insoumis. Un tweet qui louait la sincérité et l'abnégation de Quatennens. Alors qu'au lieu de vanter son sens du devoir, les compagnons de Mélenchon auraient surtout souhaité qu'il exprime sa compassion envers Madame Quatennens, femme giflée. Dans Le Parisien, un cadre insoumis confie. Dimanche, tout le monde était dans la sidération. Les langues pourraient se délier dans les prochains jours. Une insoumise embraye dans Libération. Jean-Luc n'a pas pris la mesure du tournant féministe. Une autre regrette. Il met l'affaire Quatennens sur le même plan que l'enterrement de la reine d'Angleterre, qu'il estime ne pas être un sujet. On n'est trahi que par les siens, et c'est un socialiste qui tient à rester anonyme, qui vient au secours de Mélenchon. Ce tweet de soutien à Quatennens ne le disqualifie pas à tout jamais. Tous ces gens ne sont pas des dieux, ils sont des humains, on avait remarqué. Plus loin, le même socialiste ajoute, c'est très compliqué parce que si on gradue les violences, on dira qu'on minore, mais une gifle dans le cadre d'une relation toxique, ce n'est pas la même chose que des coups réguliers. Sans donner l'impression que le couvercle se referme sur la parole des femmes, il faut réussir à trouver des sanctions proportionnées sans remettre en cause la présomption d'innocence. On comprend que ce socialiste tienne à rester anonyme, sans quoi les féministes de la France insoumise lui tomberont sur le coin de l'œil. La parole libérée des femmes, on ne peut pas dire qu'elle soit étouffée ce matin. C'est la une de Libération qui révèle de nouvelles plaintes contre PPDA en marge de la sortie du livre d'Hélène Devinck, ancienne collaboratrice de la star de TF1, livre intitulé « Impunité au pluriel ». Le Monde Magazine a consacré à Hélène Devinck un long portrait ce week-end, tandis que le Quotidien a publié hier Les Bonnes Feuilles. La plupart des faits sont prescrits, ce qui ne manquera pas d'engager un nouveau débat sur la prescription des crimes et violences sexuelles.
De violence d'une femme sur une autre femme, il est question dans Le Parisien aujourd'hui en France.
Après l'affaire Pogba et les tensions qui secouent la FFF, les turpitudes du football au masculin se conjugue aussi au féminin. Diallo Amraoui, révélation sur une agression commanditée. Le Parisien révèle en exclusivité les éléments d'un rapport d'enquête qui retrace l'origine d'une rivalité sportive qui aurait conduit Aminata Diallo à organiser l'agression de Kera Amraoui, sa coéquipière du PSG. Et le journal raconte comment le 4 novembre 2021, alors que Diallo raccompagnait chez elle Amraoui après un dîner d'équipe et de cohésion, voyez-vous ça, au Bois de Boulogne, le véhicule va ralentir de manière incompréhensible et permettre à des hommes de tabasser la rivale à coups de barre de fer. Le rapport que s'est procuré le Parisien évoque une profonde jalousie de Diallo qui plafonnait dans son club, une véritable haine nourrie envers sa partenaire qu'elle considérait comme un obstacle à sa carrière. Enquête sidérante à lire dans le Parisien, non sans avoir lu le billet de Luc Levaillant dans Libération, qui se paye les professeurs de vertu qui veulent boycotter la Coupe du Monde de football du Qatar. Boycotter la Coupe du Monde de 2022 pour des raisons écologiques et morales tient aussi du mépris, de l'exultation des corps et du refus du partage mondial des plaisirs. Je n'ai pas vu grand monde prendre d'assaut les usines Dassault pour critiquer la vente du Rafale à Doha. Je n'ai pas entendu brailler haut quand Paris s'est branché sur le gaz qatari. Faire rimer sobriété avec frustration, évolution durable avec punition risque de couper le jarret à l'adhésion nécessaire au coup de frein commun. Voilà qui est bien dit, mais ça ne dissuadera jamais les tartuffes du boycott car ils sont nombreux et jamais à court d'idées.
Merci David, nous avons rendez-vous avec Hervé Gattegnaud et Rachel Kahn. Nous sommes en direct et nous serons donc avec la journaliste du Figaro, Margot Ben, qui était donc à Izium et qui est une des rares à avoir pu apercevoir donc cet horrible charnier.